Ah là là, c'est toujours aussi super cette lambada. Allez, on s'en remet encore un peu. Eh ben nous, ça nous a mis en forme cette lambada. J'espère que pour vous, il y en est de même. Et puis, le temps que ça change de côté, cette cassette, eh bien, Marie-Hélène a eu le temps de me raconter un certain nombre de choses. Je vais vous laisser vous les dire elle-même. Je crois que tu voulais nous parler d'un film, Marie-Hélène.
Oui, j'aimerais vous inciter à aller voir un film qui est actuellement sur les écrans et qui s'appelle Le Zèbre, qui a pour acteur, Thierry Lhermitte et Caroline Cellier, d'après un roman d'Alexandre Jardin. Et alors, ça illustre totalement les stratégies dont nous vous parlons actuellement, les stratégies d'amour, puisqu'il s'agit d'un couple marié depuis 15 ans. Et en fait, Thierry Lhermitte, le mari, refuse de laisser s'endormir leur amour dans la monotonie et la routine. Alors, tous les jours, il invente de nouveaux procédés et de nouvelles stratégies pour reconquérir sa femme. Oui, c'est un film que j'ai trouvé donc très dynamisant et très motivant et qui, j'espère, donnera des idées à tous les maris et à tous les amoureux qui sont un petit peu en manque d'imagination vis-à-vis de leur partenaire. Et j'espère que ça les incitera à mieux aimer leur partenaire.
Voilà, merci beaucoup Marie-Hélène pour cette incitation positive de nos auditeurs. Film donc à voir absolument. Bien, je suis certain que pour chacun et chacune d'entre vous, ce que vient d'évoquer Marie-Hélène ainsi que cette lambada endiablée vous a ramené aisément dans une époque où vous vous êtes vraiment senti totalement aimé. D'ailleurs, pour certaines d'entre vous, ce sera le grand frisson, pour d'autres, cette phrase qui vous fait encore vibrer, et d'autres se seront vus dans les bras de l'être aimé. Eh bien, vous êtes maintenant dans l'état voulu et lorsque vous le faites avec quelqu'un, votre sujet est désormais dans l'état voulu. Demandez-lui alors...
Maintenant que vous vous rappelez cette époque et ce sentiment d'être profondément aimé, est-il absolument nécessaire que votre partenaire vous témoigne son amour en vous faisant des cadeaux, en vous faisant découvrir certains lieux ou en vous regardant d'une certaine manière ? Est-il absolument nécessaire qu'il le fasse de cette façon pour que vous vous sentiez totalement aimé ? Voyez si la réponse est concordante. Ensuite, remettez la personne dans l'état voulu et dites
« Rappelez-vous cette époque où vous vous êtes senti totalement aimé. Pour éprouver ce sentiment profond d'amour, est-il absolument nécessaire que votre partenaire exprime son amour d'une certaine façon ?» Voyez si les réponses verbales et non verbales concordent. Demandez finalement
« Rappelez-vous ce que vous éprouvez quand vous êtes totalement aimé. Pour que vous vous sentiez profondément aimé, est-il nécessaire que quelqu'un vous touche d'une certaine façon ?»
Une fois que vous avez mis au jour les éléments essentiels qui créent ce profond sentiment d'amour chez votre sujet, vous devez en découvrir les sous-modalités. Demandez par exemple...
Comment faut-il exactement qu'on vous touche pour que vous vous sentiez totalement aimé?
Faites faire le geste, puis essayez-le. Touchez le sujet de cette façon. Et si vous avez fait le geste avec précision, vous devez observer un changement d'état instantané.
Je fais cela dans mes séminaires toutes les semaines et ça marche à chaque fois. Il y a pour chacun de nous une certaine allure, une certaine façon de nous toucher les cheveux, un certain ton de voix, une façon de dire « je t'aime » qui nous font fondre. La plupart d'entre nous ne savent pas ce que c'est précisément, mais une fois dans l'état voulu, nous sommes en mesure de révéler ce geste qui nous donne le sentiment que nous sommes aimés, adorés.
Le fait que les personnes qui participent à mes stages ne me connaissent pas ou qu'elles sont au milieu d'une salle remplie d'inconnus n'a aucune importance. Si je fais apparaître leur stratégie d'amour, si je les touche comme il faut ou les regarde comme il faut, elles se liquéfient sur place. Elles n'ont guère de choix parce que leur cerveau est soumis au signal précis qui suscite chez elles le sentiment d'être aimées totalement.
Une minorité d'individus se présentent avec deux stratégies amoureuses au lieu d'une. Ils penseront d'abord à un contact, puis à une parole. Vous devrez les maintenir dans l'état voulu et les amener à opérer une distinction. Demandez-leur s'ils pourraient se contenter du contact, sans les paroles, ou du contraire, et se sentir aimés totalement. S'ils sont dans l'état qui convient, ils réussiront à obtenir une distinction claire. Nous avons certes besoin des trois modes, mais un seul ouvre la serrure de la chambre forte, un seul agit miraculeusement.
Connaître la stratégie amoureuse de votre conjoint ou de votre enfant est parfois un excellent moyen de compréhension et de resserrement des relations. Je suis sûr qu'une fois au moins dans votre vie, vous vous êtes trouvé dans une situation où aimant quelqu'un, vous lui exprimiez votre amour et n'étiez pas cru, ou au contraire dans le cas où l'on vous aimait mais vous ne le croyez pas. C'est une situation navrante, provenant du fait que deux stratégies ne correspondent pas l'une à l'autre. Si en revanche, vous connaissez le moyen de donner à un être le sentiment qu'il est aimé, vous disposez d'un outil très puissant.
La dynamique de l'évolution des relations est un processus très intéressant. Au tout début d'une relation, au stade que j'appelle la cour, nous sommes extrêmement mobilisés. Comment nous y prenons-nous alors pour faire savoir que nous sommes amoureux?
Nous contentons-nous de le dire, de le montrer ou de le manifester par un contact?
Bien sûr que non.
Nous utilisons les trois modes à la fois. Nous nous montrons l'un à l'autre, nous nous parlons et nous nous touchons sans arrêt. Puis, avec le temps, continuerons-nous à agir ainsi?
Certains couples le font, mais ils sont l'exception.
Cela signifie-t-il que nous aimons moins?
Évidemment non. Simplement, nous ne sommes plus aussi mobilisés. Nous sommes confortablement installés dans cette relation, nous savons que l'autre nous aime et que nous l'aimons.
Comment désormais communiquons-nous notre sentiment d'amour?
Sans doute uniquement comme nous aimons qu'on nous le communique.
Que deviennent alors les sentiments réciproques au sein du couple?
Examinons la question en un instant.
Si l'homme a une stratégie amoureuse auditive, comment va-t-il exprimer son amour à sa compagne?
En le lui disant, bien sûr.
Mais que va-t-il se passer si elle a une stratégie visuelle? Que va-t-il se produire au fil du temps?
Aucun des deux éléments du couple ne va se sentir aimé totalement. Au moment de la cour, les trois modes étaient utilisés et déclenchaient donc les stratégies amoureuses de l'autre. Mais voilà que l'homme arrive et dit
« Je t'aime, ma chérie ».
Elle lui répond « Non, tu ne m'aimes pas ».
Il réplique
« Mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment peux-tu dire une chose pareille ?»
Elle va lui rétorquer
« Les mots, ça ne veut rien dire. Tu ne m'apportes plus jamais de fleurs. Tu n'en aimes plus nulle part. Tu ne me regardes plus comme avant. »
Comment ça, je ne te regarde plus?
Va-t-il demander.
Puisque je te dis que je t'aime.
Mais elle n'éprouve plus ce profond sentiment d'être aimée, parce que le stimulus précis qui déclenche ce sentiment n'est plus utilisé par son conjoint.
On peut aussi imaginer le contraire. L'homme est visuel et la femme auditive. Il lui montre qu'il l'aime en lui faisant des cadeaux, en la sortant, en lui apportant des fleurs. Un jour, elle lui dit
« Tu ne m'aimes plus ».
Lui, fâché, réplique « Comment je ne t'aime plus? Regarde la maison que je t'ai achetée, tous les voyages que nous avons faits. »
Et elle de rétorquer « Oui, mais tu ne me dis jamais que tu m'aimes.
Je t'aime, hurle-t-il alors sur un ton tout aussi éloigné de sa stratégie. Et en fin de compte, elle ne se sent plus aimée.
Mais il y a pire, avec le couple le plus mal apparié qui soit, celui où l'homme est kinesthésique et la femme visuelle. Lui rentre à la maison et veut la prendre dans ses bras. Ne me touche pas, dit-elle. Tu es toujours accroché à moi. Tu n'as envie que d'une chose, te frotter contre moi. On ne pourrait pas sortir un peu? Et puis tu pourrais me regarder avant de me toucher, etc.
Là au moins, ces scénarios ne vous disent pas quelque chose? En tout cas, vous comprenez peut-être mieux maintenant comment une de vos liaisons anciennes a pu aboutir à une rupture. Parce que, au bout d'un certain temps, vous avez exprimé votre amour d'une seule façon, alors que votre partenaire avait besoin d'une autre, ou vice-versa.
La conscience est un outil puissant. Nous pensons, pour la plupart, que notre carte du monde est le monde. Nous nous disons...
Je sais ce qui me donne le sentiment d'être aimé. Cela doit être ce qui marche avec tout le monde.
Nous oublions que...
La carte n'est pas le territoire.
Que c'est seulement notre vision du territoire.
Maintenant que vous savez comment mettre en évidence une stratégie amoureuse, installez-vous en face de votre conjoint et identifiez la sienne. Et lorsque vous aurez aussi identifié la vôtre, dites à votre conjoint ou à votre conjointe ce qui déclenche chez vous le sentiment d'être aimé. Les changements que cela produira dans la qualité de vos relations valent bien que vous vous replongiez dans cette cassette autant de fois qu'il sera nécessaire.
Les êtres humains ont des stratégies pour tout. Quand un individu se lève le matin frais et dispo, c'est qu'il a une stratégie pour cela, même s'il ne le sait pas. Mais si vous le lui demandez, il réussira sans doute à vous communiquer ce qu'il dit, ce qu'il ressent ou ce qu'il voit au réveil et qui le met en forme. Comme on l'a vu, il faut, pour découvrir une stratégie, installer le pâtissier dans la cuisine, c'est-à-dire l'amener à l'état recherché, puis, quand il y est, découvrir ce qu'il a fait pour s'y mettre et s'y maintenir.
On peut ainsi demander à quelqu'un qui a le réveil facile de se rappeler un matin précis où il s'est levé vite et sans peine.
On lui demandera ainsi quelle a été la toute première chose dont il a eu conscience. Il y a des chances pour qu'il vous réponde qu'il a entendu sa voix intérieure lui dire
« C'est l'heure de se lever, debout !»
Vous lui demanderez ensuite de se rappeler la deuxième chose qui lui a permis de se réveiller vite.
S'est-il imaginé une scène ou a-t-il ressenti quelque chose?
Il vous répondra par exemple
« Je me suis vu en train de prendre une bonne douche chaude, je me suis ébroué et j'ai sauté du lit. »
La stratégie dans ce cas semble assez simple. Vous chercherez ensuite à en préciser les éléments et vous demanderez
« À quoi ressemblait la voix qui a dit que c'était l'heure de se lever ?»
La réponse sera sans doute
« C'était une voix forte et qui parlait rapidement. »
Vous demanderez ensuite
« À quoi ressemblait la scène que vous avez imaginée ?»
Ce à quoi on vous répondra par exemple
« C'était très éclairé et ça allait très vite. »
Vous pourrez enfin essayer cette stratégie sur vous. Vous découvrirez alors, comme je l'ai découvert moi-même, qu'en accélérant le son et les images, en augmentant le volume et la luminosité, on arrive en effet à se réveiller en un instant.
A l'inverse, si vous avez du mal à vous endormir, ralentissez votre dialogue interne, parlez-vous sur un ton endormi, créez des bâillements, et vous vous sentirez très fatigué presque aussitôt. Essayez maintenant. Parlez-vous à vous-même comme quelqu'un de très fatigué sur un ton endormi. Parlez de la grande fatigue, bâillez, qui vous accable. Maintenant, accélérez et observez la différence. Tout cela pour dire que l'on peut imiter n'importe quelle stratégie une fois qu'on a découvert comment elle fonctionne. Et il suffit pour cela d'avoir mis son modèle dans l'état voulu et d'avoir compris ce qu'il fait exactement et dans quel ordre. La question n'est pas tant d'apprendre quelques stratégies et de les utiliser. L'important, c'est d'être toujours à l'unisson avec ce que les autres font bien et de découvrir comment ils s'y prennent. Imiter, ce n'est rien d'autre que cela.
La PNL est la physique nucléaire de l'esprit. De même que la physique traite de la structure de la matière, la PNL traite de la structure de l'esprit. Elle permet d'en décomposer la matière en ses éléments. Des femmes et des hommes ont passé leur vie entière à essayer de trouver le moyen de se sentir aimés sans réserve. Ils ont dépensé des fortunes chez des analystes pour essayer de se connaître, et ils ont lu des dizaines de méthodes pour réussir. La PNL fournit la technique qui permet d'y parvenir et d'atteindre mille autres buts encore, de manière élégante, efficace et immédiate.
Comme nous l'avons vu précédemment, l'une des voies d'accès à un état fécond passe par la syntaxe et la représentation interne. L'autre voie passe par la physiologie. Nous avons vu plus haut que le corps et l'esprit étaient en effet liés en une boucle cybernétique. Dans le chapitre qui s'achève, nous avons parlé de l'aspect mental des états. Eh bien, j'espère que cette valse ne nous a pas trop fait tourner la tête, car après avoir parlé de l'aspect mental des états, voyons maintenant l'autre aspect. Examinons.
Chapitre 9, la physiologie, la voie royale vers excellence.
Le cœur s'exorcise parfois de ses démons grâce à une main qui se pose sur une autre ou sur une bouche. Tennessee Williams.
Quand je dirige des séminaires, je déclenche toujours des scènes farfelues, bruyantes, rocambolesques, délirantes.
Si vous entrez dans la salle au bon moment, vous découvrirez 300 personnes en train de sauter comme des cabris, de pousser des cris d'orfraie, de rugir comme des lions, d'agiter les bras, de secouer les poings comme Rocky, de taper dans leurs mains, de bomber le torse, de se pavaner, de pointer le pouce en l'air comme s'ils avaient assez d'énergie pour éclairer une ville entière.
Que se passe-t-il donc ?
Vous assistez à la manifestation de la deuxième partie de la boucle cybernétique.
La physiologie.
Et tout ce charivari s'explique parce que j'ai simplement demandé à mes stagiaires de se comporter comme s'ils se sentaient pleins de ressources, plus puissants, plus heureux, plus sûrs de réussir que jamais, comme s'ils regorgeaient d'énergie. Un des moyens de se mettre dans un état qui contribue à produire les résultats que l'on recherche consiste en effet à faire comme si on y était parvenu. Car il n'existe pas de technique du « faire comme si » plus efficace que de se mettre physiologiquement dans l'état où l'on saurait si l'on avait déjà atteint son but.
La physiologie est l'un des outils les plus puissants pour modifier instantanément les états, pour obtenir des résultats immédiats. Il y a une vieille maxime qui dit
« Si tu veux être puissant, fais semblant d'être puissant. »
On n'a jamais rien dit d'aussi vrai.
J'attends de ceux qui participent à mes séminaires qu'ils y obtiennent des résultats qui leur changeront la vie. Et pour cela, il faut donc qu'il soit dans les conditions physiologiques les plus fécondes possibles, car il n'y a pas d'action puissante sans physiologie puissante.
Dès qu'on adopte une attitude physiologique dynamique, on se met aussitôt dans un état identique. Le meilleur levier dont on dispose dans n'importe quelle situation, c'est la physiologie, parce qu'elle agit vite et sans défaut. Physiologie et représentation interne sont étroitement liées. Si vous modifiez l'un des éléments, vous modifiez automatiquement l'autre. Je dis souvent
« Il n'y a pas d'esprit, il n'y a que du corps. »
Et il n'y a pas de corps, il n'y a que de l'esprit.
Car qui modifie sa physiologie, sa posture, son rythme respiratoire, sa tension musculaire, le ton de sa voix, modifie instantanément ses représentations internes et son état.
Souvenez-vous d'un moment où vous vous êtes senti complètement abattu.
Comment perceviez-vous le monde ?
Et quand vous êtes fatigué physiquement, faible musculairement, ou quand vous avez mal quelque part ?
Vous ne percevez évidemment pas le monde de la même façon que lorsque vous vous sentez reposé, dispos, alerte. L'action sur la physiologie est un outil puissant du contrôle de l'esprit. C'est pourquoi il est très important de saisir combien il nous affecte. Il ne s'agit pas d'une variable secondaire, mais d'un élément absolument essentiel d'une boucle cybernétique constamment en mouvement.
Quand votre physiologie s'effondre, l'énergie positive de votre état s'effondre également et inversement. La physiologie est par conséquent le levier des changements émotionnels. En fait, il est impossible d'éprouver une émotion sans que s'opère une transformation physiologique correspondante.
Et il est de même impossible d'opérer un changement physiologique sans que se produise un changement d'état correspondant.
Il y a deux façons de changer d'état.
Soit en modifiant ses représentations internes,
soit en modifiant sa physiologie.
Si par conséquent, vous désirez changer d'état en une seconde, que faire ?
Pouf ! Changer de façon de respirer, de posture, d'expression, de geste, etc.
Quand vous commencez à vous sentir fatigué, il existe un certain nombre de mesures physiologiques à prendre pour continuer à communiquer avec vous-même. Baissez les épaules, relâchez des groupes de muscles importants, etc.
Vous pouvez à l'inverse commencer à vous sentir fatigué en modifiant votre représentation interne. Si vous mettez votre physiologie dans les conditions où elle se trouve quand vous vous sentez fort, cela modifiera vos représentations internes et ce que vous ressentirez à ce moment-là.
Si vous n'arrêtez pas de vous dire que vous êtes fatigué, vous constituez la représentation interne qui vous maintient fatigué.
Si vous vous dites que vous avez les ressources nécessaires pour rester dispo, si vous adoptez consciemment cette physiologie, votre corps en fera autant.
Changez de physiologie et vous changerez d'état.
Je vous ai rapidement parlé des croyances et de leurs effets sur la santé. Toutes les découvertes actuelles de la science renforcent cette idée.
La maladie et la santé, la vitalité et la dépression sont souvent le fruit de décisions. Elles ne sont généralement pas conscientes, mais ce n'en sont pas moins des décisions.
Personne ne se dit consciemment
« Je préférerais être déprimé plutôt qu'heureux ».
Mais que font les gens déprimés ?
Nous concevons la dépression comme un état mental. Or, cet état comporte un aspect physiologique évident. Il n'est pas difficile de voir qu'une personne est déprimée. Les êtres déprimés se traînent avec les yeux baissés. Ils expriment sur le mode kinesthésique ou par un discours interne tout ce qui les rend déprimés. Ils ont les épaules tombantes, ils ont la respiration courte et peu profonde. Ils font tout ce qu'il faut pour mettre leur corps dans un état physiologique déprimé.
Décident-ils d'être déprimés ?
Bien entendu, la dépression est un effet qui requiert certaines images corporelles très précises pour être créée.
L'étonnant, c'est qu'on peut tout aussi facilement créer l'effet appelé bien-être en modifiant sa physiologie sur certains points précis.
Car au fond, que sont les émotions ?
Ce sont une conjonction et une configuration complexe d'états physiologiques. Sans rien changer à ses représentations internes, je peux modifier l'état de n'importe quel être déprimé en quelques secondes. Il n'est pas nécessaire de connaître les images qu'un être déprimé forme dans son esprit. Modifiez sa physiologie et hop, vous modifierez son état.
Pour cela, je vous propose maintenant l'expérience suivante. Tenez-vous bien droit. Rejetez vos épaules en arrière. Si vous respirez profondément par la poitrine, si vous levez les yeux, si vous vous mettez dans un état physiologique fécond, vous ne pouvez pas être déprimé. Essayez vraiment vous-même. Tenez-vous debout, bien droit. Rejetez vos épaules en arrière. Respirez profondément. Levez les yeux. Mettez votre corps en mouvement et voyez si vous vous sentez déprimé dans cette posture. Vous vous apercevrez que c'est quasiment impossible. Votre esprit reçoit de votre corps un message lui ordonnant d'être dispo et en éveil. Et il le devient.
Quand des gens viennent me voir et me disent qu'ils n'arrivent pas à faire telle ou telle chose, je leur dis
« Agissez comme si vous pouviez ».
Ils me répondent généralement
« Je ne sais pas comment ».
Je leur dis alors
« Faites comme si vous saviez comment ».
Tenez-vous comme vous vous tiendrez si vous saviez comment faire.
Respirez comme vous respireriez.
Prenez l'expression que vous prendriez.
dès qu'ils se tiennent, respirent, etc. comme il faut, ils éprouvent aussitôt le sentiment qu'ils en sont capables. Cela marche toujours à cause de l'extraordinaire levier qu'est la capacité d'adapter sa physiologie à une situation. On peut toujours faire faire aux gens ce dont ils se croyaient incapables en les aidant à modifier leur état physiologique.
Pensez à quelque chose que vous vous croyez incapable de faire, mais que vous aimeriez faire.
Comment vous tiendriez-vous si vous le faisiez?
Comment parleriez-vous?
Comment respireriez-vous?
Mettez-vous maintenant dans l'état physiologique où vous seriez si vous en seriez capable.
Faites en sorte que tout votre corps vous envoie le même message, que votre stature, votre respiration et votre visage reflètent l'état physiologique dans lequel vous seriez si vous pouviez le faire.
Observez maintenant la différence entre cet état et celui où vous étiez. Si vous maintenez l'état physiologique approprié, vous vous sentez comme si vous étiez capable de faire ce que vous croyez incapable de faire.
Il se passe la même chose avec la marche sur le feu. Quand certaines personnes arrivent devant le lit de braise, elles sont dans un état de totale confiance et de disponibilité grâce à la combinaison de représentations internes et d'une physiologie appropriée. Elles peuvent donc traverser le lit de braise à grands pas sans se brûler.
Certaines personnes, en revanche, sont prises de panique au dernier moment. Elles ont modifié les représentations internes de ce qui allait se passer et imaginent le pire scénario possible. Ou bien la chaleur des charbons ardents les sort de leur état confiant au moment où elles s'approchent du lit de braise. Du coup, leur corps se met à trembler de peur, ou elles éclatent en sanglots, ou elles se crispent, tout muscle raidi, ou ont d'autres réactions physiologiques diverses. Pour les aider à surmonter leur peur en un instant et à agir malgré l'impossibilité apparente, je n'ai qu'une chose à faire, modifier leur état. Car ne l'oubliez pas, toute conduite humaine est le résultat de l'état dans lequel on se trouve. Quand on se sent fort et plein de ressources, on est capable de tenter des choses qu'on ne tenterait jamais si on se sentait faible, fatigué ou si on avait peur. La marche sur le feu ne donne donc pas seulement une leçon intellectuelle à ceux qui la font, elle représente une expérience de changement instantané, d'état et de comportement qui les aide à agir, quoi qu'ils aient pu penser ou ressentir avant.
Que fais-je avec l'individu qui tremble, qui pleure, qui se crispe ou qui hurle au bord du lit de braise?
La première solution consiste à modifier ses représentations internes. Je lui fais penser à ce qu'il éprouvera après avoir traversé le lit de braise sans se brûler. Cette modification de sa représentation jouera sur sa physiologie. En 3 ou 4 secondes, il va se retrouver dans un état fécond. Vous allez voir sa respiration et l'expression de son visage changer. Je lui dis alors d'y aller, et celui-là même, qui se sentait paralysé par la peur, quelques secondes plus tôt, marche désormais sur les braises. D'un pas décidé, exulte en arrivant de l'autre côté. Certains, pourtant, ont parfois des images internes précises de brûlures ou de chutes qui sont plus fortes que les représentations correspondant à leur capacité de traverser sans se brûler. Je dois les faire changer de sous-modalité, et cela prend du temps.
La deuxième solution, qui est plus efficace quand le sujet est complètement pris de panique devant les charbons ardents, consiste à modifier sa physiologie. Car en fait, s'il modifie ses représentations internes, son système nerveux doit ordonner à son corps de changer de posture, de rythme respiratoire, etc. Au lieu de cela, pourquoi ne pas aller à la source, passer par-dessus les autres circuits de communication et modifier directement sa physiologie? Je demande donc à notre individu en pleurs de lever les yeux. En faisant cela, il accède à la partie visuelle et non plus kinesthésique de son système nerveux. Presque aussitôt, il s'arrête de pleurer. Essayez vous-même quand vous êtes en larmes. Levez les yeux, rejetez les épaules en arrière et mettez-vous ainsi dans un état visuel. Vos sensations vont presque changer instantanément. Vous pouvez faire cela avec vos enfants. Quand ils se font mal, demandez-leur de regarder en l'air. Les pleurs et la douleur s'interrompront aussitôt, ou du moins, diminueront considérablement. Je demande parfois au sujet de se tenir comme il le ferait s'il était totalement sûr de lui et qu'il savait qu'il allait réussir à traverser les braises sans se brûler, de respirer comme il respirerait et de prononcer des paroles sur le ton de quelqu'un qui a entièrement confiance en lui. Le cerveau reçoit alors un nouveau message sur ce que cette personne doit ressentir et dans l'état qui en résulte, le sujet qui était complètement immobilisé par la peur quelques secondes plus tôt peut agir conformément à ses objectifs. Eh bien, nous arrivons, chers auditeurs, au terme de cette passionnante émission. Nous nous retrouverons dès la prochaine fois pour la 10e émission. Nous vous souhaitons, en attendant, Marie-Hélène et moi-même, une excellente semaine. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie. Et prospère qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots. Pigalle, sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde